vous exprimer.
Merci, merci beaucoup. Je vais commencer en félicitant le pays Aram Faux et en rendant hommage à ce grand think tank, à cette grande organisation et qui nous apporte les analyses, les études, le soutien pour accompagner les gouvernements et la société civile. Pour ne pas redire les mêmes choses que ma chère collègue Eliane, je dirais tout simplement que, à l'occasion de plusieurs séminaires consacrés au 10e anniversaire de ce Conseil des droits de l'homme, tous les analystes sont d'accord pour dire que l'UPR est la grande réussite du système des Nations Unies, du système des droits de l'homme des Nations Unies, essentiellement du Conseil des droits de l'homme. L'UPR est une success story. Nous sommes tous d'accord, diplomates, gouvernements, sociétés civiles, universitaires, à le dire. Et je rappellerai rapidement que grâce à l'UPR, nous sommes arrivés à une formule pratique de l'universalisme. Tous les États, grands ou petits, ou moyens, participent et présentent leur rapport. Nous sommes arrivés au sein du Conseil à éviter la politisation, à éviter l'affrontement et à instaurer un partenariat, à instaurer une nouvelle coopération entre les gouvernements, les parlements, la société civile. C'est très, très important. Nous avons aussi, grâce à l'UPR, pu amener tous les États membres à assumer un engagement politique très fort en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Toutes ces analyses qui retracent les éloges faits à l'UPR aussi sont d'accord pour expliquer, pour mettre en évidence quelques difficultés et quelques points de faiblesse. Il nous semble que la mise en œuvre des recommandations des droits de l'homme est un grand défi pour l'UPR et est un grand défi pour tous les États. Et ce n'est pas par manque de volonté politique qu'il n'y a pas cette implémentation. Généralement, on cite le nombre impressionnant des recommandations. On est arrivé à 8 000 recommandations presque. Et on parle et on cite souvent les capacités humaines, techniques et financières des pays en développement et des petits pays à mettre en application. Il est important qu'à l'aube de troisième cycle de l'UPR, on trace des pistes de réflexion pour la mise en application des recommandations. Mon pays a créé une délégation interministérielle qui a la charge exclusive de suivi des recommandations et de leur mise en application. J'aurai l'occasion de revenir sur ça tout à l'heure. Il faut qu'on prête attention aussi à la participation et au dialogue inclusif qui renforce la participation des ONG et de la société civile au niveau national à l'élaboration des rapports nationaux. Je crois que nous avons fait de grandes avancées, que la société civile participe de plus en plus à l'élaboration de plans nationaux, mais le troisième cycle est une occasion pour regarder de plus près et d'amener les gouvernements à ouvrir les grandes portes pour un partenariat réel gouvernement-société civile. Nous avons avancé sur la participation des commissions nationales, mais un grand gap reste encore sur la participation des parlements. Quel est le rôle des parlements dans la préparation des UPR au niveau national et au niveau international? Le Maroc, avec certains pays derrière une initiative qui voudrait que le Parlement ait un rôle plus important dans ce processus pendant la préparation nationale, en arrivant ici à Genève et après la discussion pour la traduction en loi nationale des engagements internationaux. Le troisième cycle aussi est une occasion pour nous pour mettre le point sur l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme. Il faut qu'on soit très attentif à l'équilibre des recommandations en lettres entre les droits politiques et les droits culturels et socio-économiques. Je vous remercie.